Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Philippe.
Nous avons parlé la dernière fois des mystères de la vie cachée de Jésus et nous évoquions le recouvrement de Jésus au temple. Mais nous avons fait la charnière en fait avec le début de la vie publique de Jésus, les mystères de la vie publique de Jésus. En ceci, il y a le baptême qui les initie. Nous disions la lumière, ça devient les mystères lumineux. C'est rendu visible le baptême, rendu audible et visible. Il est rendu audible et visible que Jésus est le Fils de Dieu. Mais dans le baptême, il faut peut-être aller un peu plus loin. Quand on voit au numéro 536 du catéchisme, la chose est bien dite. Le baptême de Jésus, c'est de sa part l'acceptation et l'inauguration de sa mission de serviteur souffrant. C'est déjà une préfiguration de cette œuvre de salut qu'il est en train d'accomplir, qui va le conduire à la croix.
Oui, effectivement, il plonge dans les eaux, et les eaux sont considérées sous ce symbole souvent de la mort, comme les eaux de la mer Rouge qui auraient pu recouvrir le peuple d'Israël quand il a quitté l'Égypte avec les chars de Pharaon derrière eux. Eh bien, il y avait un risque de mort. L'eau est souvent considérée comme une réalité dangereuse dans l'Ancien Testament et même habitée par les démons. Donc il y a quelque chose de redoutable de descendre dans les eaux. L'eau n'est pas seulement celle que l'on boit, qui est symbole de la vie, de la richesse de la vie, mais aussi symbole de la mort. Et c'est dans cette caractéristique que Jésus a voulu nous montrer l'ouverture de la voie en descendant donc un peu comme pré-serviteur souffrant de celui qui va porter le péché du monde. Et Saint Jean-Baptiste d'ailleurs le dit bien, l'agneau de Dieu qui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'expression qu'on reprend dans la liturgie au moment où, après la consécration, on a repris cette parole à Jean-Baptiste et qu'on le tourne vers le peuple de Dieu qui va communier, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je crois que il y a une connexion très forte avec, effectivement, le mystère de la croix du Seigneur et la signification profonde de sa passion. Et qui nous entraîne aussi, parce que nous recevons le baptême, comme nous remarquions la dernière fois, parce que nous sommes plongés nous-mêmes, par notre baptême, dans la mort du Christ, dans les eaux, et aussi, attention de ne pas l'oublier, dans sa résurrection, c'est-à-dire que nous recevons la vie nouvelle. Il y a cet admirable échange qui est chanté par la liturgie, par exemple dans les pères de l'Église qui sont souvent utilisés dans la liturgie. Ensevelissons-nous avec le Christ par le baptême pour ressusciter avec lui, dit Grégoire de Nazianze. Descendons avec lui pour être élevés avec lui, remontons avec lui pour être glorifiés en lui. C'est sa grande oraison 40 sur le baptême, et c'est un magnifique hymne à la grandeur du baptême qui est la plus grande des illuminations. Il compare toutes les lumières, depuis la lumière de la création, et la lumière du soleil, la lumière des astres, et puis il aboutit finalement au photismos dont on parlait la dernière fois, c'est-à-dire l'illumination qu'est notre baptême. C'est un très très bel hymne et qui pousse à aller toujours vers le pourquoi de cet abaissement, le pourquoi de cette mort sanglante qui n'est qu'un moyen sur lequel il ne faut pas faire pause sur l'image. Il faut ne pas rester dans la complaisance avec le mal et la douleur, mais aller toujours vers la vie qui l'emporte parce que nous sommes avec Jésus-Christ. Lui, Jésus, disait Saint Jean, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et cette imitation, on la retrouve toujours même dans cette œuvre du baptême que Jésus reçoit, un peu comme modèle pour nous, et nous faire avancer ainsi vers le mystère de la rédemption. Tout ce qui s'est passé dans le Christ nous fait connaître qu'après le bain d'eau, l'Esprit Saint vole sur nous du haut du ciel et qu'adoptés par la voix du Père, nous devenons fils de Dieu, dit un autre père de l'Église occidentale, celui-là, Hilaire de Poitiers, pour nous faire avancer dans le chemin du salut.
C'est notre initiation chrétienne qui se joue là, le oui. baptême, la confirmation, ce don de l'Esprit Saint. Qui après vont conduire à l'Eucharistie, le recevoir pleinement en nous, recevoir sa vie en nous, nous nourrir de sa vie, de ressusciter. C'est vrai qu'elle est, elle est extraordinaire, cet hymne de Grégoire de
Nazianze.
Ils sont nous avec oui. le Christ par le baptême pour ressusciter avec lui.
Oui, et on retrouve tout à fait ce que nous avions vu peut-être un peu rapidement au 521. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. C'est toujours cette relation que le Christ veut réaliser et dont il donne le modèle par cette circulation d'amour. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, dit le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes numéro 22. Et il dit cela pour montrer que la tension vers le salut est toujours offerte. Après, bien sûr, il y a la liberté de l'homme. Nous ne voulons surtout pas l'oublier. Dieu n'est cause du salut que à ceux qui lui obéissent, dira l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, verset 9. Donc il faut une réponse obéissante. Mais il y a cette proposition qui est sans cesse là. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. C'est quand même magnifique de penser cela, ce projet d'amour, alors que nous étions tombés au plus bas depuis le péché originel, depuis le péché d'Adam. Ce qu'il a vécu dans la chair pour nous et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Et nous sommes ainsi projetés vers cette grande joie que le Christ lui-même a ressentie au cours de son parcours, quand il voit les apôtres, par exemple, qui reviennent à lui parce qu'ils ont chassé eux-mêmes les démons en son nom, etc. On dit que Jésus exulte de joie. C'est très beau. Exulte de joie sous l'action du Saint-Esprit. Et donc, nous voyons bien qu'il y a pour nous aussi cette joie de l'annonce, cette joie de la transfiguration, cette joie du royaume qui se révèle, même s'il faut passer par des épreuves. Et les tentations de Jésus, que donne le catéchisme à partir du numéro 538 à 540, montrent bien que les choses ne sont pas, je dirais, comme un toboggan sur lequel on pourrait se mettre et ça avancerait tout seul.
Oui, oui, oui,
il faut rentrer dans un combat spirituel.
Les tentations de Jésus, donc chez Saint-Luc, arrivent après le baptême, mais si j'ai bon souvenir, entre le baptême et les tentations, il y a la généalogie de Jésus, celle de Saint-Luc, qui dit-on ordinairement, et on le comprend bien, nous fait éviter de nous dire « Ah ben oui, mais c'était le Fils de Dieu, donc les tentations, c'est pour du faux, si je puis dire.
Oui. »
La généalogie de Saint-Luc qui place Jésus comme fils d'Adam et fils de Dieu, elle est bâtie d'une façon qui est assez différente de la généalogie selon saint Matthieu. Nous fait bien dire « Les tentations de Jésus sont bien celles qu'il vit profondément en son humanité, il est vrai Dieu et vrai homme. La généalogie permet de faire ce lien et de nous éviter d'aller minimiser ce que peut représenter les tentations dans la vie de Jésus.
Oui, les tentations sont très réelles, c'est-à-dire que Jésus a accepté que le sommet de son âme ne rejaillisse pas tout le temps en dehors du moment de la transfiguration sur le reste de son humanité. Il a vraiment voulu être l'un de nous et éprouver, hormis le péché, ce que représente la difficulté à être homme. Et voyant d'une certaine manière, le cœur immaculé de Jésus, le démon est obligé de prendre des moyens extraordinaires, vu ce qu'est Jésus, et on comprend qu'il est essayé par trois fois de, d'une certaine manière, par l'esprit, de prendre Jésus au piège de paroles qui semblent venir de la parole de Dieu, mais qui sont typées par le projet du démon. Autre est ce qu'il prétend, autre est ce qu'il entend secrètement dans son esprit satanique. Et donc, il donne à Jésus des paroles de Dieu d'une manière, ostensiblement contraire à la volonté de Dieu. Et dans le fond, nous retrouvons là toutes les tentations de l'humanité, puisque nous sommes toujours d'abord investis par la suggestion qui est purement spirituelle, mais qui nous donne une mauvaise idée, et puis nous nous laissons prendre après par une certaine façon de coalition avec cette pensée, et puis nous tombons en passant à l'acte proprement dit du péché. Et on montre bien que le combat se fait au niveau de la suggestion. Et Jésus a subi ces suggestions pour montrer comment les vaincre avec la parole de Dieu, avec l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui conduit l'homme à la vérité tout entière. Mais le mal est déjà dans la suggestion. Il ne faut pas vouloir disculper, par exemple, le monde médiatique en disant « mais bon, il y a des tas d'autorisations de liberté, c'est la liberté, donc on peut faire ce qu'on veut ». Mais non, il y a déjà du mal quand il y a des suggestions au mal. Oui, donc il faut savoir remettre en question l'aspect médiatique suggestif du mal.
Oui, on porte une responsabilité quand on est dans cette suggestion.
Et quand on est dans cette suggestion, qu'on la porte. Et donc Jésus montre bien où est le combat, quoi, le noyau du combat. Même si lui est immaculé, qu'il n'a cédé en rien, il montre où doit porter le combat. Et pour nos hommes politiques, je crois que c'est important que de temps en temps, ils méditent dessus. Parce que ce n'est pas le tout de dire « je permets » sous prétexte de liberté. Ben, il faut accepter aussi de voir qu'il y a des suggestions au mal et de lutter contre les suggestions au mal.
Merci frère Édouard.